17h05, encore des problèmes sur les routes, Audrey.
Si vous êtes en ce moment sur Henri IV, direction nord, dans le coin de Val-Bélair, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle, difficile de circuler. Quelques problèmes encore devant la base militaire. Route de la Bravoure dans les deux directions, dans le coin de Shannon. La capitale, direction est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Il y a des problèmes aussi sur Wilfrid Hamel, direction est, à la hauteur de Robert Bourassa. Si vous êtes sur Henri IV sud, à partir de versant nord, ça commence à ralentir jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis sud, de chemin Sainte-Foy au pont. Pour ce qui est de la rive sud, c'est pas mal dégagé, pour être honnête, en ce moment. Il y a Guillaume Couture à l'approche du pont de Québec. Pour le reste, ça roule. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-102, texto.
Mesdemoiselles et chers auditeurs, vous avez les salutations du collègue Max Larouche qui célèbre sa première terrasse de l'année.
Oh, ouais.
Au célèbre Fouf!
Oh.
À Montréal, il s'en va voir Hollywood Undead soir. Tabarnouche.
Fait que pas de Max Larouche.
Pour moi, tout le monde va être debout. Pour moi, il n'y aura pas de problème de gens assis à Hollywood Undead. J'ai un bon feeling. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est en pleine semaine de la santé mentale. C'est du 5 au 11 mai, pour être précis. Puis, écoute, je trouve que c'est une idée extraordinaire, puis je sais pas de qui elle vient.
Audrey.
C'est Audrey?
C'était pas ton idée.
Ah, c'est pour ça. Oui, c'est mon idée.
C'était
une très bonne idée. C'est mon idée,
hey,
finalement.
Fuck off, moi,
j'ai eu l'idée de génie. Ce serait tellement le fun de faire l'historique de la santé mentale. Okay. Non, c'est pas mal toi qui a dit ça, finalement. Ouais, je suis en train de
replacer. Dans Véro a comme semé la graine. On a travaillé là-dessus, Caro puis moi. Puis toi, mais t'as dit oui.
Ouais, ouais, j'ai. Bon, à quelque part dans le processus, j'ai dit ouais.
Voilà.
Ouais.
T'as consenti.
Donc, oui, puis Caro, bonjour.
Salut, Denis.
Caro Gagnon, qui est psychiatre. Puis
oui.
La santé mentale et le traitement, les traitements qu'on a pour la santé mentale, la sensibilisation et ainsi de suite, ça a fait des pas de géant.
Incroyable. Là. Je capote. J'ai relu ça là,
ouais.
Cette semaine. Hey, spécial.
Puis là, on va vraiment partir des débuts. Oui. On recule jusqu'où pour parler de ça? Là?
Je t'amène en drone à Beauport.
Okay.
On va aller en haut de la forteresse qui s'appelle actuellement l'Institut universitaire en santé mentale.
Oh, je pensais qu'on allait vers les murs de la prison en drone. Je me demandais qu'est-ce que tu voulais dropper
ça,
sur le terrain.
Ça, c'est une prochaine chronique. Les petits trucs. Mais ce que je voulais voir avec vous, c'est... Je vais commencer par ça parce qu'à Québec, c'est vraiment... On connaît, tout le monde connaît Robert Giffard.
Ben oui, ouais,
je mets
oui.
En parenthèse, là. Mais c'est parce que beaucoup de gens... Bon, ça a changé de nombre. Beaucoup, mm-hmm. L'immeuble.
Mais je pars, on sait c'est quoi. T'sais.
On sait c'est quoi, on sait ça veut dire quoi. C'est l'asile, entre guillemets, et ça s'appelait comme ça, en 1845, l'ouverture.
L'asile.
L'asile provisoire de Beauport.
Ah, ouais.
Ouais, ça s'appelait comme ça, et on appelait les patients des aliénés.
Oh, oh tabarnouche!
C'était comme les fameux aliénés mentaux.
Oui, ouais. On les a rapatriés de partout. Il y en avait de régions, il y en avait de Montréal, c'était la première. Au Québec, même
mais
avant Montréal.
Ces aliénés-là, là, ils oui. Souffraient de quoi? Là? Ça devait être un melting
c'était
pot de tout
mélange.
Ce qu'on comprenait pas. Là.
Exactement.
Ouais.
On disait même qu'ils faisaient des exorcismes pour certains patients.
Mm.
Ils croyaient posséder du démon. La religion était très, très présente
oui.
À cette époque-là. C'était les Sœurs de la Charité qui s'occupaient beaucoup des patients. Il y avait un pavillon homme, un pavillon femme. On ne mélange pas
mm-hmm. Okay.
À ce moment-là. Puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 15% de patients qui avaient, dans le fond, une déficience intellectuelle. Il y avait
pas une maladie mentale. Pas...
Non, c'est ça. Mm-hmm. Les fameux orphelins du Plessis,
mm-hmm.
Les enfants qui ont été placés, qui n'avaient même pas de diagnostic finalement. Il y en a qui ont été mal identifiés.
On ratissait large.
Oui, puis on les internait. Ça veut dire je te prends puis je te garde peut-être 20, 30 ans. Ça se peut que tu meurs dans l'hôpital.
Et l'idée, j'imagine que l'idée de base, c'était pas nécessairement de traiter ou de soigner. C'était juste de prendre des gens...
Exact.
Qu'on ne savait pas quoi faire avec, puis on les enfermait.
C'était un peu de contenir,
ouais.
Je te dirais. Isolement, contention. Donc, on isole un patient, on peut le contentionner, l'attacher s'il est trop agressif. On utilisait des traitements, c'est sûr, de toutes sortes. Lobotomie, on a entendu parler beaucoup.
C'est rentré sur les textos,
oui.
Les électrochocs, la lobotomie.
Ah, puis d'ailleurs, ceux qui veulent écrire s'ils ont des souvenirs ou des liens.
Mm-hmm.
Avec Robert Giffard, ça serait le fun que vous me donniez vos... Il y en a qui ont travaillé là, que leurs parents ont travaillé là, leurs grands-parents.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme une institution à Québec.
Lobotomie, juste qu'on...
Oui, lobotomie, donc, c'est on coupe des faisceaux au niveau du cerveau. Hein. C'est vraiment une chirurgie qui se veut pour diminuer hein, le niveau d'idéation, de symptômes psychotiques ou de l'humeur très élevée.
C'est geler quelqu'un de manière permanente.
Hmm. Exact. Ça peut être quelqu'un qu'on aurait peut-être aujourd'hui une maladie bipolaire, une dépression, une schizophrénie instable. Ça serait peut-être ces diagnostics. diagnostics-là qui ressembleraient à ceux qui ont eu la lobotomie.
Quand on faisait ça, si on se parle en termes crus, l'idée, c'était juste de prendre quelqu'un qui n'était pas contrôlable puis de le transformer en légume parce que c'était plus facile à gérer?
C'était de calmer le patient.
OK.
Puis probablement calmer l'entourage. Parce qu'il devenait peut-être agressif et violent, puis il s'arrêtait plus. Donc, les gros cas, c'était pas tous les cas qui avaient une lobotomie, évidemment. Il y avait des électrochocs, les premiers électrochocs. Là, je vais vous choquer. Regardez-moi ça, le jeu de mots. On en fait des électrochocs encore aujourd'hui. C'est très efficace.
J'ai vu ça dans Stat.
Sauf que... Ah oui, bon.
Stat, c'est la référence pour Audrey, pour tout ce qui touche la médecine.
Stat, c'est la vie.
Je vous amène une nuance, OK? Oui, Stat, c'est véridique. En plus, là, qu'est-ce qu'on voit dans Stat, c'est étudié, c'est conseillé par des médecins. Donc,
bon.
On donne une anesthésie au patient de quelques minutes, qui est générale. Le patient n'a pas de convulsion, c'est-à-dire de contraction musculaire.
C'est pas comme dans le film d'Alice Robbie.
Exactement. Puis c'est pas contre son gré. Le patient, il consent. Mm-hmm. Hein, comme on consent une anesthésie. Ça dure quelques minutes. Il peut avoir une quinzaine de traitements et plus. Là, ça dépend du cas. Mais encore aujourd'hui, pour des dépressions très sévères, résistantes, on peut pas utiliser de médicaments pour certains cas. Des personnes très âgées, des schizophrénies très résistantes. Il y a quelques indications pour encore les électrochocs et ça fonctionne.
Mais l'idée derrière l'électrochoc, c'est quoi?
En fait, l'idée, c'est que le cerveau, c'est dans le fond un réseau électrique. Hein, les neurones, il y a de l'électricité dans toute la diffusion des cellules. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme un reset. On fait un court-circuit qui fait qu'on reset les boucles qui sont associées à augmenter l'humeur, enlever les idéations paranoïdes, tout ça. Sauf qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait dans le sens où on dit souvent, vous allez lire électrochoc fait sur Google, comment ça fonctionne. Ils vont vous donner des hypothèses. C'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que ça fait. On sait que ça réajuste la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. Mais on ne sait pas trop comment. Mais on sait qu'il y a un court-circuit qui permet... moi, je dis un reset, puis quand j'ai un patient électricien, il comprend tout le temps. C'est le fun.
Mais on ne peut pas demander ça. Je ne peux pas dire, mettons, hey, moi, je me sens vraiment dépressive. Peux-tu m'électrococheter le cerveau?
On peut pas. La plupart du temps, c'est un traitement. Alors, dans l'algorithme de traitement, là, comme si tu arrives avec des symptômes, tu as beaucoup de possibilités de psychothérapie, de molécules, et après plusieurs essais, plusieurs années, tu vas arriver aux électrochocs, ça ne sera pas l'offre d'emblée. Là. Non, pas du tout. C'est des cas plus, nous, on dit de troisième ligne, là, qui sont beaucoup plus complexes.
Il y a quelque chose de fascinant parce que les religieuses sont celles qui ont prodigué les premiers soins dans l'historique de Québec. Puis tu avais beaucoup de choses qui étaient faites avec comme base principale la foi, mais tu avais quand même un fond scientifique qui fait en sorte que certains traitements et certaines choses ont passé le test du temps. En santé mentale, c'est-tu un peu la même chose?
Les religieuses ont apporté beaucoup l'organisation des soins très stables, très sécurisants, une hygiène adéquate pour les patients, la bonne nourriture, bien servie, ce qu'on appelle une routine de base. Dans les hôpitaux, là, c'est comme ça, les hôpitaux psychiatriques, encore maintenant, c'est comme ça. Il n'y a plus d'infirmières qui sont religieuses, c'est des infirmières, mais c'est les mêmes racines. C'est l'idée qu'ils nous ont apporté vraiment une quiétude dans la routine. Le patient a besoin de ça.
Il y avait de la bienveillance, bienveillance là-dedans, parce que souvent, les images qu'on a de ces asiles psychiatriques-là, c'est soit d'un film d'horreur, ou soit dans des trucs comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est un film extraordinaire, mais ce qu'on nous montre, c'est des gens remplis de malveillance qui veulent juste faire souffrir des patients dont certains sont même pas malades en bout de ligne. La réalité était peut-être plus entre deux eaux.
Puis on s'entend que Jack Nicholson, il a pas signé un consentement pour laisser soins.
Non.
Donc, quand tu vois ça, c'est sûr, c'est difficile à voir parce que c'est un peu violent de voir le refus du patient qui souffre. Là, on veut le faire souffrir. C'était pas ça qui était là dans le temps non plus. Mm-hmm. C'est qu'on faisait avec les moyens du bord. J'ai l'impression, quand je lis tout ça, là, puis que je vois ma psychiatrie actuelle en 2025, puis qu'est-ce qu'il y avait eux autres comme moyens, je me dis, il y avait 5000 patients dans les années 60. 5000.
Hey, c'est immense. Puis, je peux-tu faire un mauvais parallèle? Je veux dire, quand on soignait des gens sur un bateau, mettons, dans le temps, un navire de guerre, bien sûr que le patient allait souffrir, mais le but, c'était de le réparer, puis on travaillait avec les moyens du bord. Si vous avez déjà vu, c'était quoi l'appareil médical moyen qu'on avait sur un navire de guerre? Tu sais qu'il n'y a rien qu'on fasse. Il y avait une aiguine, là, je veux dire, pour scier un membre, là, je veux dire.
C'est aussi simple que ça. Nous, on a de des radiologies, tu sais, poussées maintenant. On fait une résonance magnétique. Quand un patient va pas bien au niveau cérébral, on veut voir qu'est-ce qu'il y a. À l'époque, on savait pas. Puis il y avait souvent des patients avec des grosses tumeurs, puis plein de symptômes. Fait qu'il n'y avait pas les moyens d'évaluer comme il faut. Puis ces patients-là,
c'était quoi l'origine du mal?
C'est ça. Nous, maintenant, moi, je vois un patient, je veux savoir d'où ça vient, ces symptômes, avant de le soigner.
Mais ça, c'est arrivé plus tard.
Beaucoup plus tard.
L'idée, c'était, voici des gens qui menacent la sécurité des autres.
Oui.
On va les enfermer là, on va les nourrir, on va prendre soin d'eux autres.
Oui.
Puis quand ils bougent pas trop, ça va bien aller.
Puis on va les faire travailler dans la ferme voisine.
Oh, OK.
Alors, dans le fond, Saint-Michel-Archange, ça s'est appelé comme ça longtemps avant que j'explique Robert Giffard.
D'où le fromage, on nous a texté tantôt.
Le SMA,
bon. Pour vrai? Ah oui!
C'est des patients qui travaillaient encore jusqu'en 2007. Ça a duré 100 ans, cette ferme.
Ouais.
Elle était sur d'Estimoville, là, quand vous passiez. On voyait les vaches Holstein, les noires et blanches. Puis eux, ils faisaient fromage en grains, fromage, bon, des mozzarella, tout ça. Puis les patients travaillaient à cette ferme pendant 100 ans. Ça a fonctionné. Donc, c'est le travail thérapie, en guillemets. On offre un stage de travail. Le patient va faire des soins, par exemple, sur la ferme. Puis là, ben, ils vendaient le fromage et tout. Puis c'était connu. Donc, les gens, je ne suis pas surprise que les gens à Québec connaissent ça parce qu'on s'achetait le fromage SMA il y a quelques années.
Ça a été un deuil, ça.
Oui, qui était bon. Il y avait des petits tortillons, je crois, qui étaient populaires aussi.
Oui, effectivement.
Ouais, tortillons.
Caro, le rôle du psychiatre a excessivement changé dans les dernières années. Oui, mais là, je veux dire, tu nous amènes en 1845. De ce que je comprends, il n'y avait pas de psychiatre à proprement dit. Là. C'est né quand le métier de psychiatre?
Au début, là, c'était des neurologues psychiatres. Ce n'était pas vraiment des vrais psychiatres. La résidence en psychiatrie, dans les années 50, j'aurais dû aller me former pour être psychiatre, soit aux États-Unis ou en Europe. Il y avait deux possibilités pour les étudiants en médecine qui voulaient être psychiatres. Ça a commencé dans les années 60 à nous former ici, au Québec. Et on est assez jeunes comme spécialité. Moi, quand je regarde tout ça, moi, personnellement, j'aurais pas été une bonne psychiatre dans 1900.
Pourquoi?
Parce que je suis trop empathique. J'aurais pas pu donner ces traitements-là ou voir, tu sais, l'isolement contention à tout le monde parce que là, tout le monde est souffrant. Je pense que ça aurait été, en tout cas pour moi, dans ma façon de fonctionner, trop difficile d'avoir cette quantité de patients, des milliers de patients à voir comme psychiatre. Donc, quand je regarde le métier de psychiatre, il a beaucoup évolué depuis les années 50-60. On a de plus en plus de recherches. Hein? Première molécule, l'argactyl, chlorpromazine. Bon, les gens en médecine connaissent ça. 1952, première molécule qui peut un petit peu diminuer la psychose, antipsychotique, on l'appelle comme ça. Puis après ça, est arrivé le lithium, mais on l'utilisait juste dans les années 70. Des antidépresseurs fin des années 60. Donc, ça a été lent avant que ça commence à se clarifier. Puis nous, quand je suis arrivée, moi, en 99, j'ai commencé ma résidence, ça fait déjà 26 ans de ça, bien, il y avait déjà là, des antipsychotiques, des antidépresseurs, beaucoup, une pharmacopée là, super intéressante qui fait que si toi, Denis, t'arrives, t'es mon patient, je vais étudier ta situation, on va regarder ton cas, puis tu vas avoir 3-4 choix possibles de pharmaco, tu sais, de molécules. Puis on va travailler ensemble pour que ça aille bien. Puis on va avoir une équipe multi autour de nous. On ne sera pas seul. Avant, les psychiatres étaient seuls. Ils pratiquaient en solo. Donc là, on pratique avec des gens autour de nous pour aider vraiment la personne à s'insérer dans sa société avec ses symptômes.
On a beaucoup changé la façon de percevoir la santé mentale. On est passé de « t'es possédé du démon, on t'enferme
».
Puis maintenant, est-ce que l'objectif a changé radicalement dans le sens où de plus en plus, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, maintenant l'idée, c'est que tu continues de fonctionner en société, même si tu as des problèmes qui sont jugés sévères.
Maintenant, on intègre.
Ouais.
On va dire, on ne sera peut-être pas parfait là, au niveau de la rémission. Le rétablissement ne sera peut-être pas à 100%, mais on veut que le patient puisse intégrer une certaine vie, avoir un appartement, peut-être faire du bénévolat.
Ouais.
Ou, on va essayer de trouver toujours des façons. Notre but, ce n'est pas d'éradiquer à 100% la maladie. Parfois, on ne peut pas le faire.
Mm-hmm.
Mais quand on ne peut pas, on a une équipe qui va essayer d'aider le patient à... L'autonomie va être au centre de nos interventions, alors que moi, psychiatre de 100 ans, l'autonomie, c'est moi qui gérais tous les patients. Tu vois la nuance?
Ouais.
Le contrôle, c'est plus moi qui l'ai. C'est toi, qu'est-ce que tu veux comme patient? Dans ton traitement, je vais t'aider. Tu comprends? C'est un partage.
Puis j'imagine que l'idéal, c'est que ces gens-là sont suivis, sont encadrés, sont aimés, ils ont un entourage qui prennent soin d'eux.
Bien, les familles, ils sont souvent plus là maintenant que c'est moins négatif d'avoir des symptômes de maladie mentale, d'avoir, mettons, un suivi en santé mentale, c'est moins négatif. Donc, les familles sont beaucoup plus présentes, les amis, pour soutenir les patients qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a quand même une belle approche là, de l'entourage.
La désince, c'est arrivé quand, ça? Parce qu'on est passé...
Oui, commission Bédard, c'est ça, Dominique Bédard, début des années 60, suite à une lecture incroyable, là, il y avait un livre, quelqu'un qui s'était fait interner, qui avait écrit là-dessus. Là. C'est, je vais te dire le titre, c'est très bon. Il y a les fous dedans. Les fous crient au secours.
Oh.
Suite à ça, on a fait une grosse étude. Ouais. On est très près de la politique et du social, les psychiatres. On est très, très près de ça. Là.
Puis on est dans des années où on est passé d'un extrême à l'autre, à peu près partout au Québec.
Oui, puis c'est la grande noirceur est passée.
Oui.
La révolution tranquille arrive. Puis là, on veut sortir les patients des hôpitaux puis désinstitutionnaliser, on va le dire une fois. OK, la désinstitutionnalisation. Donc, on veut les sortir. Et là, c'est gros travail. Ça a pris 25, 30 ans, en tout cas, je dirais entre 60 et 80 dans les années, il y a eu la sortie de ces patients-là. Puis ça n'a pas été facile, là, trouver des foyers, créer des lieux.
Ça a été tout l'un, tout l'autre.
Ça a été, oui, très, très difficile. Bon, parlez-en des gens qui ont connu des patients qui ont été 30 ans à l'hôpital, il fallait les sortir. Les patients ne voulaient pas sortir. Mm-hmm. C'était leur maison.
Il y avait leur confort, c'était il y avait leur routine.
Il y en a qui étaient arrivés adolescents,
ouais.
Puis ils étaient rendus adultes.
Il n'y avait plus de famille nécessairement pour
exactement.
Prendre soin d'eux. Il y a des familles qui se sont fait imposer ça alors qu'ils n'étaient pas en mesure de donner des soins. Encore, c'était des parents qui étaient vieillissants.
Oui, puis il n'y avait pas de contact. Donc là, ils arrivaient comme ça dans la société. C'est incroyable, pareil. On a réussi quand même à sortir. Là, en 2009, on disait autour de 500 patients pour l'hôpital. Là. Mm. De 5000 à 500, c'est beaucoup. Là.
Oui.
Mais ces patients-là sont très, très élevés en termes de besoins.
Puis, il y a de plus en plus de gens seuls. Puis les résultats, c'est que tu as beaucoup de patients qui ne sont pas capables de prendre leurs médicaments par eux-mêmes. Puis là, sont laissés à eux-mêmes. Puis à un moment donné, tu les retrouves dans la rue puis sont complètement désorganisés. Puis quand on dit qu'il n'y a pas de système parfait, en passant d'un extrême à l'autre, on a créé d'autres problèmes.
Ce que tu penses, c'est, on appelle ça nous en psy les portes tournantes.
Ah,
c'est
oui.
Qu'ils partent de l'urgence, ils reviennent. T'sais, la porte ne se ferme pas. Tu comprends, la porte, c'est ça, les patients, ils retournent, ils vont dans la rue, consommation, ils ont de la comorbidité, c'est-à-dire, tu peux avoir une schizophrénie résistante, mais en même temps avoir un trouble de consommation de speed, par exemple.
Ouais.
Fait que tu n'es pas capable de te sortir de tes symptômes, tu ne prends pas la médication, tu n'as pas de suivi, tu te promènes un peu dans la rue tout seul, puis tu ne veux surtout pas être hospitalisé. Fait que ça, c'est des patients très difficiles. Ces cas-là, ça reste encore des défis. Là.
Dans les choses qui ont évolué, j'imagine, la perception de ça, c'est une grosse maladie mentale versus toutes les nuances que ça peut...
Ça a changé beaucoup. Là.
Beaucoup, hein?
Là, c'est merveilleux. On a des diagnostics, nos manuels de diagnostic sont plus clairs, donc on est plus en train de détailler. Bien, c'est une schizophrénie de type paranoïde. On va aider le patient avec tel élément. On a un plan clair. J'ai l'impression que plus on clarifie le diagnostic, plus notre offre est adaptée au patient. Puis, j'ai l'impression qu'on a moins de préjugés négatifs autour du patient. Fait que c'est le fait que notre science évolue en parallèle, que la politique a permis qu'on sorte les patients un peu des hôpitaux. Il y a quelque chose qui est en train de... En tout cas, il y a un peu plus d'équilibre, j'ai l'impression. Mais c'est sûr que des gens qui travaillent en psy m'écoutent présentement, ils vont dire « il y a encore du travail à faire ». Oui, c'est vrai. Mais quand on regarde ce qui a été fait...
On partait de loin.
Là, on a l'autonomie du patient. On a quelqu'un qui peut décider de ses traitements, qui peut faire des plans, des programmes de rétablissement, des choses qui n'existaient pas avant. Là.
Mm-hmm.
Ça n'existait pas il y a 30 ans, peut-être.
Puis, j'imagine aussi qu'on est maintenant en mesure de démêler le fait que des gens peuvent avoir des problèmes de santé mentale pendant un certain temps de leur vie. Ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur blonde, leurs chums sont d'un bout rough.
C'est circonstanciel, oui.
C'est plus circonstanciel, puis en même temps, ça fait drôle à dire, mais c'est devenu l'universalité peut-être des problèmes de santé mentale parce qu'on peut tous en avoir dans
exactement.
Une certaine mesure.
Exactement. Avant, c'était clivé. Tu sais, qu'est-ce qui était mental, c'est les gros coqs lourds.
Il
y avait pas d'entre deux, là.
C'est ça,
oui. Oui, c'est ça. T'étais le naïf du village. Je sais pas comment appeler
l'idiot
ça.
L'idiot du village.
L'idiot, puis on faisait rien avec cet enfant-là, puis on le laissait aller. Tandis que maintenant, tout le monde sait que ça peut nous concerner. Remarquez, on parle plus de maladie mentale, on parle de santé mentale.
Oui, c'est vrai.
Okay?
On a changé un peu le narratif là-dessus.
Oui, puis je trouve qu'on parle aussi du mot bien-être. Plus que santé mentale, bien-être, ça touche tout le monde, comme tu dis. Qui n'est pas à l'abri d'avoir une épreuve demain matin là, qui l'amène en dépression? On est tous égaux par rapport à tout ça. Donc, c'est rendu plus ouvert de dire tous les humains peuvent vivre temporairement quelque chose. Puis ça, je trouve ça génial qu'on puisse plus en parler. Puis une semaine comme ça, où on parle de la santé mentale, ben on parle du bien-être global des gens. T'sais.
C'est parce qu'on a tellement fait une distinction entre le mental et le physique à un moment donné que j'ai l'impression que la santé mentale, on refusait de la traiter comme si j'avais une plaie ouverte dans le bras. Puis Audrey a dit, ben là, t'as une plaie ouverte dans le bras, va te faire soigner. Non, il est pas mal dans le bras, moi, je suis correct. Je suis pas handicapé, moi, là, je suis correct. Puis là, la plaie commence à puruler, puis ça commence à s'étendre, puis ainsi de suite. Puis là, je dis, non, je suis pas malade, puis à un moment donné, il est trop tard, faut me couper le bras. La santé mentale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps derrière, on était beaucoup comme ça. Là.
Oui, puis maintenant, on a un modèle médical qui nous dit, c'est biopsychosocial. Fait que, oui, il y a du biologique dans ta réaction. Mais il y a ta psychologie, comment t'es ta personnalité. Il y a qu'est-ce qui se passe dans ta vie sociale.
Mm-hmm.
On intègre
Caro?
Plus.
C'est-tu comme le mal du siècle? C'est-tu, on en parle tellement qu'on en vient à le banaliser puis que là, tout le monde a un trouble certain. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il ne faut pas aller dans la sur-identification au diagnostic. Ça serait peut-être un piège avec Internet et les informations. Puis là, moi, je découvre que j'ai un TOC aujourd'hui, puis là, c'est sévère.
Oui, je vais auto-diagnostiquer.
Tu sais, il y a ça qui est dangereux, je trouve, dans ce que tu dis. Ça, je retrouve ça. Mais on ne parlera jamais assez aux gens qui sont actuellement en détresse, qui nous écoutent. Il y a sûrement quelqu'un qui est en détresse présentement qui se dit, moi, la vie ne vaut pas la peine. Ah, ouais, OK, ça a changé les soins. Mm-hmm. C'est plus ouvert, c'est plus le fun. en préparant la chronique, ça m'a rendu motivée de faire la chronique en me disant, waouh, quelqu'un qui entend ça, il va se dire, hey, j'ai quand même, je peux appeler à 811, je peux appeler au centre de crise, je peux aller à l'hôpital me présenter. Il y a des options présentement là, dans notre société. T'sais.
Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment, mettons, dans les 10-15 dernières années qu'on a évolué le plus ou le grand bond il a été fait avant ça?
On a évolué beaucoup, beaucoup au niveau des technologies de recherche. C'est incroyable. Là, actuellement, ça, c'est... moi, j'ai fait ma résidence, ça fait déjà 20 ans, puis c'est différent ce que j'ai appris puis ce que je fais dans mon quotidien, parce qu'il faut que je me garde toujours renseignée.
Vous vous mettiez à jour.
Oui, oui, il y a des recherches, des choses qui ressortent.
Des manières de faire
plus,
les choses.
Oui, puis ça devient plus précis qu'avant. Tu sais, avant, les gens disaient, bon, on va supporter le patient. Là, on va faire telle technique. Tu sais, on est plus précis.
Action-résultat, puis on l'évalue.
Puis il y a toujours consentement avec le patient. Mm-hmm. Le patient mm-hmm. est partenaire. C'est plus moi, le médecin, là, qui paterne tout le monde.
C'est pas la science infuse, oui.
C'est ça. Tu sais, c'est terminé. Là, on est avec vous, on est ensemble, puis on choisit votre traitement, mais avec votre accord.
Tu repenses-tu des fois à des gens que tu as peut-être vu passer il y a 10-15 ans, que tu te dis, mon Dieu, avoir su ça, là, rétroactivement, j'aurais pu plus aider cette personne-là?
Vraiment. Ouais. Oui, parce qu'on faisait un stage pour moi dans la troisième année de ma résidence. C'était 6 mois avec l'école les plus résistants, justement, à Robert-Geffard. Mm-hmm. Je me rappelle là, la rencontre de patients qui étaient là depuis des... Il y avait quand même des années là, de vie, de foyer de groupe, puis de revenir à l'hôpital. Puis je me rappelle de ces cas-là lourds. On avait de la médication très, très forte à ce moment-là. Ouais. Maintenant, on est plus dans la plus petite dose efficace. Avant, on donnait des méga-doses. Fait que,
ça gelait le monde.
Ben oui, puis le patient était un petit peu comme anesthésié. Puis
tu
on
le traites
essayait...
pas, tu le gèles.
Fait qu'il
n'y
avait
ça.
Pas de rencontre. T'sais, tandis que là, tu me dirais, ce patient-là, sa médication serait moins forte, puis je serais probablement en lien avec...
Pour avancer avec
pour
lui.
Faire une thérapie qui est adaptée, bien sûr. Là. Mais je serais plus... du support, mais plus adapté à ce patient-là que de le voir comme un cas sévère puis that's it.
Quand on a parlé de la désince, tu as mentionné une phrase qui m'est restée en tête de gens qui ne voulaient pas sortir, ouais. qui voulaient rester parce que ça les rassurait. En passant d'un extrême à l'autre, est-ce qu'on a désorganisé du monde qui serait peut-être mieux en institution présentement? Puis nous autres, on tourne les coins ronds, on fait de la radio, mais c'est un sujet qui revient souvent quand on parle avec Marceau, entre autres, dans le Pit Stop, de ouais. dire il y a de la place à Giffard pour bien des gens qui ont des problèmes, qui sont
en itinérance,
en porte tournante, ouais. comme on disait tantôt. As-tu l'impression que...
J'ai pas le chiffre. Là, mais il y a un pourcentage de patients pour qui la vie asilaire était meilleure pour eux. Uh-huh. Okay, dans leurs besoins de base, là,
ben, même
avec
dans...
leurs symptômes.
Écoute, dans la vie de tous les jours, il y a des gens pour qui la routine sauve une vie. Là. Mm,
tout à fait.
Donc, c'est un peu la même chose.
C'était comme sécure, hein? Safe space oui. pour eux. Puis moi, je me dis, quelqu'un qui est arrivé à 15 ans puis qui est rendu à 35, puis là, je dis, ben, tu t'en vas dans une autre maison. On comprend qu'il est enraciné là, dans ce milieu-là. T'sais. Même si nous, on va voir ce milieu comme, mon Dieu, c'est hospitalier, c'est dur, tout ça. Le patient, ça répond à ses besoins. Fait que oui, il y a un pourcentage de patients pour qui ça a été probablement plus difficile de sortir. Ça aurait été préférable de rester. Mais quand on prend une tangente au niveau politique, on ne peut pas dire, OK, tout le monde, on sort, sauf M. Tremblay à la chambre 306, c'est correct. Tu comprends? Ah, je ne peux pas commencer à faire du cas par cas. Fait que c'est pour ça qu'on a enlevé tout le monde des lits hospitaliers pour faire comme un petit peu la désince. Là.
Je veux saluer Max qui vient de nous envoyer un texto. Il dit, je travaille dans une résidence pour personnes avec le trouble de l'autisme, déficience et trouble du comportement grave. Oh. On fait tout pour qu'ils aient une belle vie, pour leur donner de l'autonomie. C'est des cas lourds que nous avons. Et c'est très gratifiant d'y arriver.
J'aimerais dire à Max qu'il y a quelques dizaines d'années, ces patients-là étaient dans des lieux, étaient vraiment hospitalisés pour la
c'est
vie
fou,
presque.
Hein?
Là, ils ont une vie probablement qu'ils font des activités avec les résidents, ils font des choses, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment beau dans ça. Puis les belles réussites, on les voit pas tout le temps. Mm-hmm. Là, on parle souvent du négatif, là, mais les belles réussites, il y en a eu en désince.
C'est quoi les trucs les plus barbares qu'on faisait dans le temps puis qu'on fait plus, mettons, là?
On mettait les patients en coma insulinique. On prenait de l'insuline. Quoi? On injectait l'insuline en overdose. Puis là, le patient devenait... Parce que l'insuline, quand elle est trop forte, elle prend toute la glycémie. Puis là, on devient en hypoglycémie, si vous voulez. Puis on les mettait en coma insulinique. On créait un coma, OK, de façon médicale. C'était fait et approuvé pour calmer les patients.
Tabarnouche.
Oui.
Hé, mon Dieu, que c'est weird, hein?
C'est ça.
Ça saisit.
Quand je vous dis...
C'est barbare.
Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, on ne ferait jamais ça actuellement, là. Mm-hmm. Jamais on ferait ça. Jamais on donnerait une surdose de médicaments, de toute façon, aux patients. On en donne aux besoins s'ils sont anxieux, puis ça, c'est correct. Là, on calcule les doses, là, mais on calcule nos affaires. On ne veut pas aller dans l'overdosing.
Pouvez-vous être poursuivi si, mettons, il y a un surdosage
oui.
ou qu'il y a une exagération?
Oui? Oui, les poursuites. Il y en a beaucoup de poursuites, hein, les médecins. Je ne sais pas la quantité, là, mais il y a énormément de poursuites. Puis la portion médicale, là, c'est-à-dire le médicament adéquat, la dose ou le nombre, la fréquence, la posologie a été mal faite, c'est un grand pourcentage des poursuites quand même. Ça, puis les malentendus. Ça veut dire que si, Denis, t'es mon patient,
oui.
puis on s'est pas entendu sur une affaire, mm-hmm. tu repars à la maison, je vais poursuivre le docteur Gagnon.
Ah, je voulais un médicament, mais elle ne l'a pas donné.
Oui, elle n'a pas voulu. Puis là, finalement, c'est un malentendu. Peut-être j'aurais pu aider si tu m'avais expliqué ton point, mais il y a des patients qui vont faire la poursuite, puis on va régler la conclusion avec un médiateur.
Mm.
Puis on va créer, comme le Collège des médecins accueille toutes les plaintes, puis parfois, il n'y a pas de poursuites qui sont gardées parce que c'était vraiment un malentendu entre le médecin et son patient. C'est pour ça que nous, on est formés, puis on se fait dire tout le temps, ayez une bonne communication. Soyez sûr qu'on vous comprend. Tu sais, on a un langage. Moi-même ici, des fois, je parle avec... J'ai des mots hospitaliers, je m'en rends pas compte, tu sais. Mais les patients, il faut qu'ils comprennent.
Ouais.
Fait que des fois, il faut répéter le message. Qu'est-ce qu'il faut, là? Docteur, c'est quoi votre, votre prescription? Je comprends pas. Bien, il faut recommencer. Il faut tellement bien se comprendre. Sinon, les poursuites arrivent à ce moment-là aussi.
C'est quand même fascinant de voir tout le chemin qui a été effectué. Puis moi, je me souviens, je sais pas pourquoi, là, j'imagine que je suis pas le seul que ça a marqué, là, mais d'un fille de Caleb, là, le gars qui avait le grand mal
ben oui.
qui était possédé du démon. C'était
Lazare, son nom.
C'était Lazare. Ben oui, tu te souviens de ça.
Il mettait une bible dans la bouche.
Ben oui.
Ben, à l'époque, on pensait que le démon était, donc l'épilepsie, c'était le grand mal, puis il y avait le petit mal. Il y avait les absences, c'était le petit mal, puis le grand mal, c'est les convulsions. Donc, quand je suis dans la religion, je ne connais pas la médecine, je vois une convulsion, ah, le diable est dans le corps de cet enfant-là.
C'est Régine.
Pour eux autres, c'est comme... Ben c'est ça.
Il y avait des femmes qui souffraient en accouchement, puis il y a des gens religieux qui pensaient qu'elles étaient possédées. Parce qu'elles souffraient, puis elles criaient, puis elles hurlaient, parce que... Bon, ça a de l'air souffrant comme ça se peut pas, mais...
Il y avait tellement d'ignorance.
Ben oui, on part de loin, là.
On part de très loin, puis quand je regarde aujourd'hui ce qu'on fait pour les gens, puis comment on les aide, je trouve ça beau. Je me dis, c'est quand même le fun. On est capable quand même de... On n'accole pas une affaire religieuse. Même peu importe la croyance des patients, les patients ont plein de croyances, c'est bien correct qu'on les écoute. On est ouvert, tu sais, on va pas les juger, on va discuter. En tout cas,
c'est l'ouverture.
Il y a quelque chose de bon.
C'est quoi le futur de la psychiatrie, selon toi?
Selon moi, j'aimerais, je vais dire j'aimerais, bien que j'aimerais qu'on garde la psychothérapie. Ça, c'est moi, là, c'est mon petit jardin à moi, mais on nous demande, les psychiatres, de faire beaucoup de consultations une fois puis de renvoyer les patients dans d'autres organismes. Mais moi, je pense qu'on fait de la psychothérapie également, comme le psychologue en fait, travailleur social et tout. Pour moi, c'est super important de garder la psychothérapie et la science qui va se raffiner. Je pense que le mélange des deux est bon. Mais au-delà de ça, je pense que quand je me lève le matin, il faut que je fasse ça pour les bonnes raisons, c'est aider les gens. Donc, c'est ça la base. C'est je veux juste aider du monde. C'est juste ça. Puis si je reste comme là-dessus, bien, avec tout ce qui va arriver, je vais être... Mais il ne faut pas que je perde le nord. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne serai pas là avec l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Ça va être moi qui va être avec le patient tout le temps.
Ouais,
je voudrais pas perdre ça parce que d'après moi, la clé, c'est ça. C'est le lien avec le patient.
Caro Gagnon, merci beaucoup. Caro Gagnon, qui est psychiatre, puis on faisait les grandes lignes de l'historique pas si lointain de la santé mentale. On a fait des grands bouts de chemin, hein? Des mots comme débile mental, on n'utilise plus ça. Mm-hmm. Le grand mal, on sait que c'était pas ça non plus. Mm-hmm. Je veux dire, on part de loin, de très loin. Se le rappeler des fois, ça fait du bien. Courte pause, on revient. 17h33 Boulevard. Gravel dans le